Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, une réforme du conseil d'administration de la LHJMQ est réclamée par des élus. Hausse du salaire des députés, les solidaires ne refuseront pas tous la hausse de ce salaire. Langue officielle, un sommet de plainte en 10 ans pour Air Canada et une attaque de drones sur Moscou fait réagir le Kremlin.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est aujourd'hui que la Commission de la culture et de l'éducation à l'Assemblée nationale donnait ses recommandations quant aux audiences publiques qui ont eu lieu en février et en mars sur la violence dans les initiations, surtout dans le milieu du hockey, bien évidemment, au vu au su des révélations qu'il y avait eu dans les mois précédents, mais aussi dans tous les sports de manière générale, le phénomène des initiations. On parle d'une violence qui est cyclique dans le rapport aujourd'hui où on a des jeunes, des recrues qui vont embarqués dans une équipe et vont subir certains sévices pour ensuite les reproduire une fois qu'ils deviendront des vétérans. Et c'est dans ce texte-là, ces 23 points de recommandation qu'on vise entre autres le conseil d'administration de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la LHJMQ, qui devrait être complètement indépendant et comprendre non pas une majorité de propriétaires d'équipe, mais plutôt divers représentants indépendants, dont des représentants des joueurs, Mario. C'est des nouvelles suggestions qui sont apportées aujourd'hui et qui...
Le représentant des joueurs, c'est pas mauvais.
Oui.
Mais le reste, j'y crois pas.
Tu y crois pas du tout?
Ben, je crois pas. Écoute, imagine l'opposition qu'il va y avoir. Les propriétaires d'équipes, c'est quand même... C'est dans leur tête, c'est leur ligue. C'est eux à travers leurs investissements, leur équipe. C'est à travers... C'est la somme des équipes qui fait la ligue. De penser qu'ils vont vouloir céder leur pouvoir à des administrateurs indépendants, quelconques. Mais moi j'ai plus vu ce rapport-là comme une... T'sais, les solutions de la Ligue de hockey junior majeure du Québec ne viendront pas du Parlement. Elles vont devoir venir de la Ligue,
oui.
Du nouveau commissaire Mario Cecchini, qui lui va s'asseoir avec les propriétaires d'équipe, va leur dire, les amis, ça se peut plus. Il y a des affaires qui peuvent plus arriver. Prenez les mesures, prenez les moyens, on va être plus sévère. Puis je pense que c'est par là que ça va passer. Mais je dis pas que le Parlement a fait ça pour rien. Je pense qu'il y a une partie où les sujets, le sujet du hockey puis de la violence, des initiations étaient très dans l'actualité et les députés voulaient... T'sais, les députés voulaient s'en mêler, ils voulaient
avoir une présence politique,
avoir une présence
sur l'histoire.
Exactement, ouais. Être dans l'histoire, être à la TV à ce sujet-là. Puis là, ils font leur rapport. Puis s'il y a des bonnes suggestions, pour une bonne partie, ce sont d'excellentes suggestions, mais quand ils rentrent dans l'administration de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, non, moi je pense que la Ligue de hockey junior majeur doit s'améliorer à travers les instances de la Ligue de hockey junior majeur. Je pense pas que c'est le Parlement qui va aller refaire la composition. Je pense pas qu'ils vont voter, tu sais, la Ligue respectera rien de ça. Je pense pas qu'ils vont voter une loi spéciale, un projet de loi privé d'expropriation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour y imposer des affaires.
On se comprend. Par contre, il y a quand même des mesures, comme tu le dis, qui sont intéressantes, qui sont amenées dans ces recommandations-là, entre autres, mais d'être capable de modifier le mécanisme de traitement des plaintes, mais aussi de changer la manière dont on conçoit ce qui se passe dans les initiations. Parce qu'il y a déjà quelques années, la Ligue a interdit les initiations en bonne et due forme. Tout ce qui est initiation, c'est censé être interdit. Mais ça éradique pas du tout le phénomène. On continue à y avoir de ces rites de passage. Puis c'est surtout maintenant, ce qu'on veut faire, c'est dresser une liste de ce qui constitue des activités d'intégration qui sont acceptables et d'autres qui sont du bizutage, qui sont violents, qui sont donc par la suite proscrits. Parce que peu importe ce qui arrive, dans une équipe de hockey, Mario, dans des organisations comme celle-là, il va y en avoir de ces rites de passage-là, des intégrations, des moyens de faire, puis parfois, de manière très positive, d'intégrer les gens à l'équipe. Ça permet de souder les gens ensemble, un groupe, un club, de faire des activités qui s'apparentent à ce qu'on pourrait appeler des initiations. Après ça, le problème, c'est quand ça vire dans le harcèlement, l'intimidation, la violence physique, sexuelle et psychologique, là, on est dans un problème. Si on n'avait pas de liste comme ça jusqu'à date de gestes qui sont proscrits, donc ça pourrait être intéressant quand même de voir la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec se doter de lignes directrices autour de tout ça.
Les députés touchent vraiment un sujet qui est réel et qui est sensible. Il restera à voir ce qu'on va... Comment est-ce qu'on va donner suite? On n'a toujours pas la réaction officielle de la Ligue, entre autres.
Toujours à Québec, du côté des élus, c'est la saga du salaire des élus qui se poursuit. Marion, on réussit à garder, là, pour le bien ou pour le pire, du côté de Québec solidaire, le dossier dans l'actualité. Ça se revire un peu contre eux, par contre, aujourd'hui. Ouais. Là,
mais là, oui, ils ont quand même, pour garder ça dans l'actualité aujourd'hui, nouvelle semaine de session parlementaire, l'avant-dernière, Québec solidaire avait une petite arme en main. Là.
Oui, ils sont arrivés avec un sondage, Mario, en disant là que selon sondage léger qu'ils ont eux-mêmes commandé, 74% des Québécois rejetteraient la hausse de salaire qui est proposée de 30% du salaire des élus en ce moment. Donc, on est arrivé ce matin en disant que la proposition est extrêmement impopulaire auprès de la population, que le gouvernement devrait faire marche arrière dans tout ça et tout. On a répliqué du côté du ministre Simon-Jean Barrette, entre autres, là, que c'est du populisme que fait Québec solidaire en allant comme ça prendre des sondages.
Mais la réplique est genre sur quatre fronts, là.
Oui.
Ça vient de partout.
Oui, ça vient
aujourd'hui,
de partout.
Il y avait une contre-offensive contre Québec solidaire.
Oui, parce que là, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, qui ont, eux, sont revenus sur la proposition de Québec solidaire, qui est venue la semaine dernière, le dossier de salaire des élus de 20 000 $ au lieu de 30 000 $ Ouais. Donc, de 20% au lieu de 30%.
C'est parce que Québec solidaire essaie de gagner du temps en commission parlementaire, de faire passer le temps. Et là, ils ont fait toutes sortes de propositions en se rendant pas compte. Des propositions que, eux, je vous jugeais anodines, là, d'amendements. Mais quand tu proposes un amendement pour réduire, là c'est plus 30%, plus 30 000. Mais quand tu proposes de le réduire, mettons à 20 000, c'est comme si toi tu deviendrais le proposeur d'une hausse. Comme ils se sont pas rendus compte qu'eux, c'est comme s'ils étaient d'accord pour une hausse de 20%, là.
Ben oui, parce que eux, leur position, ça a toujours été, on n'en veut pas de hausse de salaire. Puis là, par la suite,
sauf si un mécanisme indépendant, complètement indépendant, mais faut pas que les députés soient partie prenante aux discussions.
Voilà. Et là.
Tout à coup, ils proposent, eux, une augmentation de 20%.
Voilà. Fait que d'un côté, ils disent pas d'augmentation, mais si c'est une augmentation, ça pourrait être 20 000 $ Donc, on parle des deux côtés de la bouche et c'est de ça qu'on les accuse là de manière assez nourrie aujourd'hui. Puis en plus de tout ça, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, a expliqué aujourd'hui que c'est pas tous les députés non plus de son parti qui vont verser, tout comme lui va le faire, la hausse de salaire en question à des organismes communautaires. Parce que lui, il l'a dit, là, le 30 000 $ s'il est voté, adopté, il va le donner à un organisme de charité. Le problème, c'est qu'il dit, ben là, c'est pas tous mes députés qui risquent de m'imiter au travers de
sa
tout
ligne,
ça.
Sa ligne, ça a été, il y aura pas de ligne de parti pour les finances personnelles de chaque député.
Oui, ce qui fait qu'il a laissé entendre qu'il y a
certains
au moins...
pourraient vouloir garder le montant.
Oui, il y en a quatre qui semblent vouloir le suivre pour l'instant, mais lui fait dire qu'il y a, là, dans la majorité des députés de Québec solidaire, beaucoup de députés qui, eux, là, ont parmi la plus basse rémunération de leurs collègues. Il dit, ça m'étonnerait qu'il y en ait pas au moins quelques-uns, là, qui donnent une partie de leur salaire ou de l'augmentation de salaire là-dedans. Mais bon, il va pas dire à qui doit garder quoi, comment, dans quelle proportion non plus. Mais c'est sûr que ça aussi, Mario, ça vient
puis,
ça, ouais, ça vient ajouter du bois à
ton histoire. Tu viens de nommer trois des attaques, mais il y en a une autre, mais j'ai suivi un peu leurs travaux. Parce que ils attaquent aussi Québec solidaire. Québec solidaire insiste beaucoup sur le fait on ne peut pas, nous comme députés, voter sur la hausse de notre propre rémunération.
Oui.
Or, quand ils ont voté à l'automne dernier... sur le fait que Québec solidaire, même s'il était juste 11 députés, il allait quand même être un groupe parlementaire. Même s'il n'y avait pas les 12 députés, il allait quand même être un groupe parlementaire.
Ils ont négocié.
Ils ont négocié ça. Mais en négociant ça, ben, en étant un groupe reconnu comme groupe parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, il a le salaire d'un chef. Il y en a un qui a le salaire d'un whip. Puis il y en a un qui est le député d'Hochelaga-Maisonneuve, M. Leduc. Puis il y en a une, Mme Labrie, qui a le salaire de leader parlementaire.
Donc ça vient avec des augmentations de salaire, Mario.
Ça vient avec des primes salariales de 20-quelques mille, 30 mille. Et donc, les autres disent, oui, mais vous avez voté pour augmenter vos propres salaires. Là, ils disent, c'est pas pareil, c'était une entente sur la reconnaissance parlementaire, mais sur le principe de dire qu'un député peut pas se lever en chambre pour changer son propre salaire,
et pourtant, ils l'ont fait.
Plus qu'une fois, parce qu'ils l'avaient fait à la session parlementaire aussi en 2000, pas à la session, mais à la législature précédente, oui. En 2018, pour être aussi reconnu. Donc, ça fait deux fois officiellement que Québec solidaire, on se lève pour une reconnaissance. Bon.
On joue sur les mots, là. C'est du parlementarisme pur, on s'entend, mais...
Mais mon point, c'est que c'est la contre-offensive des autres partis contre Québec solidaire. Mais moi, je continue de penser que Québec solidaire marque des points. C'est-à-dire que les gens, oui. Tout ce qu'on vient d'expliquer, puis les technicalités, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est que ça s'augmente. C'est le party à l'Assemblée nationale, ça s'augmente les salaires.
Ça pige d'un fonds public, ça s'en met d'un poche.
Ceux qui sont contre, c'est Québec solidaire. Tu sais, la politique a tendance à, surtout avec la mémoire, avec le temps qui passe, les choses ont tendance à se simplifier. Tu sais, ce qu'on en retient,
oui.
Ce qu'on en retient, c'est une version simplifiée. Et je pense que ça, c'est une... Parce que ça, c'est un exemple où Québec solidaire va gagner la guerre de l'opinion publique à la fin. Non?
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
C'est devenu une espèce d'exercice annuel à Ottawa lors du rapport annuel publié par le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge, celui de regarder Air Canada, qui est la plupart du temps une entreprise à surveiller, disons, dans ce triste palmarès des plaintes aux langues officielles.
Disons qu'il est dans une classe à part en nombre de plaintes.
Ils sont dans une classe à part et encore une fois, ça se démarque beaucoup. 276 plaintes recevables qui visent Air Canada cette année. Sommet sur 10 ans, là, donc vraiment, là, quand on parle de 2012-2013, il y a 10 ans, on parle de 43 plaintes seulement. On est à 276 l'an dernier, donc c'est 6 fois plus élevé en 10 ans. Et c'est des histoires qui se répètent, Mario, parce qu'en même temps où on recevait ce rapport-là aujourd'hui qui était publié, ben, on a une nouvelle qui est tombée dans le Journal de Montréal. Une jeune femme de 19 ans qui veut rester anonyme, qui a témoigné en disant avoir reçu des formations pour devenir agente de bord au sein de Air Canada Rouge. Tu sais, le service à bras, disons, de vol chez Air Canada. Il dit, ben, c'est une formation qui se faisait à Montréal par la filiale québécoise ce printemps-ci. Et c'était qu'en anglais. Formation seulement en anglais pour les agents et les agentes de bord. Et la dame dit, ben, avoir
échoué. En même temps, c'est une belle honnêteté, ils disent, à Montréal, on trouve plus de formateurs en français.
Ben, si on n'en trouve pas à Montréal, Mario, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs?
On trouve plus de formateurs qui parlent français. Non, mais ça en dit long quand même. Tu dis, OK, et ceux qui nient l'existence d'une anglicisation à Montréal, OK, ils se donnent des cours uniquement en anglais. Et ceux qui les organisent plaident, on peut pas trouver de formateur qui parle français.
Dans une compagnie qui fait l'entièreté du Canada puis qui est officiellement censée être bilingue puis offrir des services bilingues à tout le monde, Mario.
Ouais,
une compagnie
censée.
Qui a des moyens en plus.
Mais le commissaire aux langues officielles, là, il déborde, pour ce qui est des voyageurs, dans son chapitre sur les voyageurs, il déborde Air Canada. Il y a aussi tout un volet sur les aéroports et dans les aéroports du Canada aussi là, c'est problématique.
Ouais, parce qu'on se rappellera que c'est quand même les aéroports, ça reste de juridiction fédérale.
Absolument, c'est des institutions publiques de juridiction fédérale, mais
on a tendance à l'oublier quand même, Mario, ouais, parce que c'est rare.
Sincèrement, c'est au point où, mettons, moi, je m'y attendrais même plus. Oui, à Montréal-Trudeau, quand ça parle anglais, ça m'énerve, mais mettons, je m'en vais
à Calgary.
Ben.
Je m'attends pas à me faire service en français à l'aéroport de Calgary.
Alors qu'on devrait, là. On est au Canada.
Théoriquement, sur papier, oui.
Mais moi, c'est sûr que j'y penserais même pas. Je vais parler en anglais. Je vais m'attendre à ce que tout est en anglais. Je serais pas surpris. C'est qu'on a comme accepté que le bilinguisme au Canada, il y a le bilinguisme au Canada, c'est le bilinguisme au Québec, là.
Oui, donc ça vient quand même, là, marquer ce point-là, là, encore une fois, dans ce rapport aux langues officielles. On se rappellera quand même, là, quand on parle de pic de plainte, l'an du discours, là, en anglais qui avait été prononcé par le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, en 2021 devant la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Là, c'était plus de 2833 plaintes qui avaient été reçues cette année-là. Entre autres, là, ça avait explosé autour de cette histoire-là. Ça avait réagi fort au Québec. Mais bon, semble-t-il que même si Air Canada là, semble faire amende honorable, M. Rousseau a rencontré M. Legault, semble-t-il son français s'est amélioré. Même si on dit qu'on veut s'enregistrer là, au niveau là, des lois québécoises et fédérales sur les langues officielles, ben ça reste difficile chez Air Canada.
Tu sais que j'ai l'impression là, que, bon, là, le rapport vient dire les aéroports, il y a un problème. Mettons qu'il y avait une grosse poussée pour dire, là, tel aéroport, ça peut pas être juste en anglais. Vancouver, mettons. Ou un autre dans l'Ouest canadien. Je suis convaincu qu'on est à quelques années près au Canada que la levée de bouclier ou la montée d'opinion publique va être à dire, ben là, si on affiche bilingue à Vancouver, là, c'est pas français-anglais, là. C'est mandarin-anglais, ou c'est punjabi-anglais, ou c'est hindi-anglais, ou c'est arabe-anglais.
Parce qu'il y a des communautés culturelles.
Qui sont plus nombreuses que les francophones, là.
Ben oui.
Puis là, je dirais la même chose de Vancouver, puis je dirais la même chose encore pire de Toronto, puis... C'est-à-dire où le français n'est plus du tout en nombre. Les communautés françaises ont été assimilées. Donc, en nombre, le français, c'est plus la deuxième langue. Mais bon, jusqu'à tout récemment encore, on disait, bon, le Canada, c'est un pays bilingue, mais de plus en plus, les nouvelles générations, là, sont plus là-dedans, on leur enseigne plus l'histoire de la même manière, ils sont dans un pays multiculturel, le français, on s'en fout. Au Québec, c'est des racistes, ils parlent français, c'est ceux qu'on n'aime pas dans le pays. Puis, nous autres, ici, à Vancouver, ben, la deuxième langue, c'est le mandarin, fait que s'il y a une deuxième langue... J'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'entendre ça, là. Puis là, ça va être comme l'espèce d'éclatement de la loi sur les langues officielles. Je dis pas qu'on est rendu là, mais j'ai l'impression qu'en moins d'une génération, on va être arrivé là.
Toujours sur la scène fédérale, on a enfin eu des réactions le plus fortes du côté du NPD, là, au niveau de l'affaire de l'ingérence étrangère de la Chine. Ils disent avoir pas l'intention là, de forcer des élections fédérales, donc ils veulent pas rompre le contrat qui les lie aux libéraux pour l'instant, mais veulent quand même le déposer une motion là pour qu'il y ait là une enquête publique formelle menée par un juge indépendant. Là. Vont déposer donc tout
mais
ça à la Chambre
des communes. Surtout déposer une motion qui carrément, dans la motion, on demande
d'écarter le rapporteur spécial David Johnston.
Dehors David Johnston. Là, ouais. Première étape avant tout le reste, c'est vrai. Et là...
Ça risque de passer. Ça va passer.
Ben oui, parce que les conservateurs puis les bloquistes vont voter pour ça. Et les autres, ils veulent pas depuis le début David Johnston.
Ouais, donc on tasserait David Johnston, mais quelque part, Mario, le mal est fait. Le NPD ne veut pas déclencher d'élection, donc vont pas amener un vote de confiance. On a fermé complètement la porte à cette possibilité.
Ouais, mais est-ce que M. Johnston pourrait continuer son mandat si il se fait, s'il se fait désavouer par le Parlement. Légalement, il aurait le droit de continuer parce que son mandat ne lui vient pas du Parlement. C'est un mandat directement de Justin Trudeau du Conseil des ministres.
C'est un poste qui n'existait pas vraiment, d'ailleurs.
Non, c'est créé par Justin Trudeau, donné à M. Johnston, et c'est pas le Parlement qui lui a donné son poste. Donc, le Parlement peut pas... Mais c'est plus au niveau politique, au niveau opinion publique, au niveau... disons, crédibilité, légitimité.
Oui.
Ça aurait l'air de quoi, là? T'es dans un mandat pour renforcer la démocratie, la protéger contre les ingérences étrangères.
La démocratie s'exprime, vote pour mettre dehors le type en question.
Là, tu dis, non, moi, je continue.
Ouais, puis le gouvernement, à ce moment-là, est-ce que Justin Trudeau lui-même, là, advenant le vote, ça se passe comme on l'entend, on demande à David Johnston de s'en aller, ça n'a pas force de loi. Est-ce que les libéraux oseraient le garder en poste?
Mais ils ont dit oui aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, on a passé la journée à dire, nous, c'est notre homme de confiance, on voudrait le garder.
Ce serait fort, fort spécial quand même, Mario, à voir. Puis ça prouve encore une fois que le NPD là est pas prêt à se lancer en élection du tout. Vont conserver le mariage avec Justin Trudeau et les libéraux, mais aussi longtemps qu'il va le falloir, Mario. Parce que si ça a passé, je me vois mal, j'imagine mal un autre événement dans lequel le NPD là, divorcerait des libéraux.
Moi, je m'attends pas à des élections à court terme. Dans ma tête, le NPD va continuer à supporter les libéraux pour au moins une autre année.
Tout savoir en 24 minutes.
Premier ministre François Legault va remettre à titre posthume le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec à l'acteur Michel Côté qui est décédé hier à l'âge de 72 ans. On a fait l'annonce là, dans un point de presse plus tôt aujourd'hui. Réagit déjà là, depuis l'annonce du décès de Michel Côté là, avec des messages sur Twitter, a écrit un peu partout sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage comme un peu tout le monde au Québec, Mario, là, Michel Côté, les hommages qui en finissent plus de finir même au lendemain de l'annonce de son décès. Et donc, on va remettre là, l'Ordre national du Québec, parce que selon la loi qui régit cet ordre-là, une nomination peut être faite à titre posthume, mais c'est une disposition qui est très, très rarement appliquée. Là. C'est ce qu'on explique directement sur le
site.
Mais
là, dans ce cas-ci, la candidature de Michel Côté était déjà prête.
Oui.
Puis on se dit tous, c'était dans un monde idéal si on avait pu lui remettre de son vivant, qui entende les hommages, qui participe à la cérémonie, qui apprécie cette espèce de reconnaissance de sa carrière, de son talent. Bon. Ce n'est plus possible, mais je pense que c'est bien quand même de le faire à titre, c'est bien de le faire à titre posthume.
Oui, parce qu'on s'entend, Michel Côté aura laissé un impact qui est assez majeur dans la société québécoise. Il y a même eu des paroles, Mario, qui ont fusé pour parler peut-être de funérailles nationales. C'est sûr que c'est des circonstances qui sont absolument exceptionnelles pour des funérailles nationales. Est-ce qu'il y aura droit? C'est pas certain pour l'instant, mais chose certaine, là, on y réfléchit là, déjà.
J'entendais que la mairesse d'Alma aussi, de son côté, on va vouloir, dans sa ville nationale, Natal l'honorer de belle façon.
Économie.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle avec ChatGPT dans les derniers mois, mais là, nouveau groupe d'experts qui sonne l'alarme à nouveau. Là.
Pas rien qu'un peu sonner l'alarme, là. Ils sont allés de propos quand même explosifs.
Hein. Ouais, des propos explosifs prononcés surtout, Mario, par, encore une fois, des grosses pointures du milieu. Là. Sam Altman, qui est le créateur de ChatGPT lui-même, qui signe là-dedans. Geoffrey Hinton, qui est l'un des pères fondateurs d'intelligence artificielle, qui est signataire, lui aussi, ce texte-là, qui avertissent dans une déclaration en ligne, là. On parle pas... juste de danger, Mario.
Non, non.
Menace d'extinction pour l'humanité par l'essor de l'intelligence artificielle. Là. Ce n'est plus ni moins le scénario de la Terminator. Là, ouais. J'exagère
une
à peine.
Une menace contre l'humanité aussi grosse ou plus grosse qu'une pandémie.
Ou une guerre nucléaire.
Voilà.
C'est les mots qu'ils ont utilisés effectivement dans tout ça. Là, parce qu'ils disent que ça risque de révolutionner toutes sortes de métiers qu'on connaît, mais surtout bouleverser au-delà de tout ça, ben les élections, le marché du travail, vraiment la désinformation avec un grand c'est ce qui risque d'être changé, entre autres, là, à cause de l'intelligence artificielle. Et donc, on alarme, on tire la sonnette, encore une fois. Là, en mars, ça avait déjà été fait par une centaine d'experts mondiaux sur la chose. Mais là, Mario, on a beau nous réclamer ça à grand cri, c'est difficile de savoir qui a l'autorité pour arrêter, là, comme ça, là, les recherches d'intelligence artificielle ou mettre des moratoires, ou mieux les encadrer.
Non, mais je veux dire, dans la dernière semaine, sur les marchés boursiers américains, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle s'est enflammé. J'imagine pas combien de dizaines, de centaines de milliards d'argent ont été investis là, dans les entreprises, ouais, dans la capitalisation boursière, dans les entreprises qui font que ce soit du matériel, qui sont dans les tous les fabricants de quoi que ce soit qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Je veux dire, comme on dit, le train est parti, là.
Ouais, et puis lorsque le capitalisme est en marche, là-dedans, ben, l'argent parle plus fort ben oui, que bien les choses. Puis là,
ben oui,
l'argent roule, coule à flot dans le milieu de l'intelligence artificielle. On n'est pas prêt d'arrêter.
La compétition
là.
Entre les pays en plus, la compétition entre les pays, tout le monde va vouloir être le premier. Donc, je vois pas toutes ces idées d'arrêter. Est-ce qu'on pourra, du côté des gouvernements, l'encadrer? Il faudra, dans le sens d'éviter les dérapages, les catastrophes.
Ça va devenir une priorité, par contre. Je pense que le message est clair au niveau là, des experts en la matière. Faut que ça devienne une priorité. En même temps,
c'est ça, toutes les notions de moratoire. Mmh. Okay, mais c'est qui là, qui se lève, on arrête? OK. Mais là, mettons, je sais pas, chez Microsoft, ils sont 2000 qui travaillent là-dessus. Chez Amazon, ils sont 2000 qui travaillent là-dessus.
Ouais, c'est un peu des
qui leur dit, mais là, faites d'autres choses. Bon. On va vous trouver d'autres choses à faire. On fait plus avancer.
Au niveau des grandes menaces comme ça, Mario, ça revient un peu sur le même débat que les changements climatiques. On sait tous que demain matin, si on veut vraiment nous sauver, il faudrait bien arrêter tout le transport. Mais après ça, qu'est-ce qui resterait? Mm. C'est sûr qu'on est devant quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous autres, puis qui envoie, comme tu le dis, des milliards, des centaines de milliards injectés dans l'intelligence artificielle.
Je suis pas catastrophiste, moi, quand même. L'être humain a toujours su...
S'adapter.
Puis mater ces technologies qui ont fait peur. Tu sais, la guerre nucléaire, à un moment donné, les gens avaient vraiment peur que l'humanité allait s'autodétruire, puis on y pense encore. Là, dire, quand il y a eu la Russie, l'attaque sur l'Ukraine, on s'est dit « Whoops », mais c'est pas encore arrivé.
Le monde.
Parlant de la Russie, attaque impressionnante, mais surtout là, complètement nouvelle sur la Russie elle-même. Là, dans la capitale russe de Moscou, on a annoncé avoir, là, du côté du Kremlin, abattu au moins 8 drones envoyés pour attaquer la capitale. 2 blessés légers, des dégâts mineurs sur plusieurs bâtiments, mais ça s'est limité à tout ça. Alors qu'une incursion de drones, rare attaque de Kiev sur Moscou, alors que Kiev elle-même n'a pas revendiqué l'attaque encore, mais qui démontre qu'il y a quand même des échanges de tirs, alors que la capitale elle-même là, de l'Ukraine est bombardée depuis plusieurs jours là, par des salves de missiles, de drones, souvent de fabrication iranienne, qui sont envoyés. Donc on s'échange des tirs, Mario, de manière nourrie. Puis ça me faisait, disons, là, grincer les dents aujourd'hui de lire la réponse de Moscou qui a accusé l'Ukraine de faire des attaques terroristes oui, sur son territoire après avoir envahi l'Ukraine.
Russie, eux autres, des bombardements sur le territoire du voisin, là, non, c'est
ça, c'est bien correct, mais quand on se fait tirer dessus à notre tour, ça, c'est terroriste, Mario.
Ouais, non, c'est...
Ouais, c'est disons, ils ont du culot. En terminant, Mario, je voulais te parler de cette nouvelle. Je sais pas si tu as vu hier le Grand Canal de Venise, magnifique
était
ville.
C'était
vert lime, vert fluorescent. Ben on a trouvé la cause de cette fluorescence dans l'eau. C'est la fluorescine qui est un produit qu'on met dans l'eau habituellement pour voir là être capable de trouver lorsqu'il y a des fuites quelque part. Là. Le fait qu'on colore, mais ben, quand on fait des constructions sous-marines, on peut voir s'il y a des fuites en voyant ben chloup, une espèce de petite fumée verte qui va s'échapper dans l'eau.
Ça indique une fuite.
Oui, c'est pas quelque chose qui est toxique du tout qu'on peut retrouver dans l'eau. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée comment c'est arrivé là du côté des autorités italiennes. Mais pour l'instant, on n'écarte pas la thèse de l'activisme environnemental, entre autres. Là. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui décident de mettre ça là-dedans.
Les activistes environnementaux font pas de conneries, là.
Ben écoute, c'est déjà arrivé, on lance des cannes de soupe sur des tableaux.
Parce qu'on détruit quelques œuvres d'art, lancer de la soupe sur des œuvres d'art.
Ben voilà, donc on sait la cause pour l'instant, mais on sait pas exactement pourquoi ça a été fait dans le canal à Venise. Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que c'est pas toxique et que ça risque de partir assez vite.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.